Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Passé de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et pas avec n'importe qui. Avec un académicien, Jean-Marie Roir, bonjour.
Bonjour.
Cher Jean-Marie Roir, je suis très heureux de vous retrouver. Moi, je me rappelle notre rencontre. C'était en 2012. C'était au Club des écrivains de Bourgogne à Dijon. Et déjà, Napoléon nous avait passionnés. Vous aviez fait paraître Napoléon ou la destinée, donc chez Gallimard, qui avait obtenu le prix du Guesclin et le prix Combourg. Et vous revenez sur le devant de la scène éditoriale et romanesque, historique et de l'actualité, parce que finalement, quand on parle de Napoléon, il y a toujours de l'actualité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Nouveau roman, toujours chez Gallimard, qui s'intitule « La maîtresse italienne ». Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir cet épisode de la geste napoléonienne, de l'épopée napoléonienne. C'est un moment un peu difficile pour Napoléon, puisque c'est le moment de l'abdication. Ça se passe, en fin de compte, le roman entre, on va dire, notre grand proscrit est puni par l'Europe, enfin disons les coalisés, il se retrouve sur l'île d'Elbe, jusqu'à sa fuite en fin février 1815. Mais dans cet épisode temporel, il y a une femme, la maîtresse italienne, qui n'est pas du tout la maîtresse de Napoléon, contrairement à ce que j'avais pu penser au départ, Jean-Marie Roir.
Vous auriez préféré.
On aurait pu trahir l'histoire, effectivement, mais non, elle joue son rôle.
Bien qu'il s'agisse d'un roman. En réalité, cette comtesse italienne est la maîtresse du colonel Campbell, qui est un Écossais et qui a été chargé par les Britanniques d'accompagner Napoléon. Et d'ailleurs, Napoléon était tout à fait d'accord pour qu'il y ait cette sorte de surveillant à l'île d'Elbe. Ça l'arrangeait parce qu'en même temps, ça lui permettait de transmettre un certain nombre d'informations à Castelrague et aux Britanniques. Voilà. Donc, Napoléon n'a pas du tout cherché à l'évincer.
Alors, c'est vrai que ce beau colonel écossais, d'ailleurs, donc ce colonel Campbell, il a 35 ans, Napoléon a 10 ans de plus, hein, Napoléon a 45 ans en 1814, et Campbell est tout de même en admiration devant un des hommes les plus puissants que l'Europe a connu pendant plus de 10 ans.
On va dire que le monde a connu depuis très longtemps.
Que le monde.
Et en effet, et qui n'aurait pas été en admiration? Voilà, bon, c'est le cas de tous les Anglais qui venaient à l'île d'Elbe. Vous savez, tous les lords anglais, c'était vraiment leur trajet préféré, c'est de pouvoir rencontrer Napoléon. Et c'était vrai des Russes, c'est vrai de tout le monde, même à cette époque-là. Donc, Napoléon attire irrésistiblement les gens. Il a un charme dont tout le monde a pu témoigner. C'est-à-dire parce que c'est un homme qui est à la fois magnétique, c'est un homme qui exerce sur les gens une force magnétique. Les gens se sentent paralysés devant lui. Et puis, il y a quand même toute son histoire, qui était l'une des histoires les légendes les plus fabuleuses. Et en même temps, c'est un homme qui ne cherche pas à s'imposer par un côté sentencieux, prétentieux, mégalomane. C'est un homme très gentil. C'est ça qui est très étonnant. Et il charme par sa gentillesse. Il s'intéresse, il demande aux femmes des nouvelles de leurs enfants. Enfin, c'est un homme très facile. Et puis, c'est un homme très étonnamment qui a du cœur. Il a du cœur. Et s'il a été autant aimé par ses soldats et par les Français, c'est parce qu'ils ont senti qu'il les aimait. Il les aimait, et d'ailleurs il le dira dans son testament, « Je souhaite être enterré sur les bords de la Seine auprès de ce peuple français que j'ai tant aimé ».
Alors, néanmoins, dans votre roman, nous avons un Napoléon sur l'île d'Elbe qui se trouve entre, disons, une machine mentale intellectuelle qui fonctionne fort bien. Il est assez peu bavard et pourtant, il est prêt encore à rebondir, à repartir peut-être pour une autre conquête, celle du pouvoir. Il est dans un moment d'attente. En tout cas, on pourrait penser que l'île d'Elbe, pour Napoléon, ce sera un temps de repos. Or, il n'en sera rien, parce que finalement, il s'est beaucoup occupé sur l'île d'Elbe.
Vous savez, Napoléon n'a rien d'un oisif. C'est un homme qui est toujours préoccupé en fonction des circonstances. Et là, il arrive à l'île d'Elbe, et tant qu'à faire d'être à l'île d'Elbe, qui est vraiment une réduction de l'Empire en miniature, hein, parce que c'est vraiment, il y a 12 000 personnes qui vivent à l'île d'Elbe, c'est une toute petite île, et malgré ça, il va se préoccuper du sort des Iliens, il va faire construire des routes, il va planter des arbres, il va aller jusqu'à s'occuper du commerce des marbres, du commerce du fer. Et il pousse la préoccupation sur les plans les plus infimes. Il va même jusqu'à se préoccuper des maladies vénériennes qui touchent sa petite armée. Il y a eu, bon. Alors oui, alors il cherche à retrouver des gens pour les soigner. Donc c'est vous dire à quel point il est attentif aux autres et il va construire également son palais, il va construire un ermitage. Donc il est très actif, mais en même temps, il est toujours dans le concret, dans le présent concret, mais en même temps, la machine intellectuelle de Napoléon fait qu'il s'évade dans une méditation et il cherche son destin. Il sait très bien qu'il a un destin, mais il ne sait pas encore ce que ça va être. Voilà. Et c'est cette période de l'île d'Elbe où il se demande ce qu'il va faire. Mais là encore, il attend les circonstances. C'est selon sa fameuse expression, il faut que la poire soit mûre. Et cette poire, elle mûrit où ? Elle mûrit à Vienne. À Vienne, où les congressistes du Congrès de Vienne, de ce qu'on appellera la Sainte Alliance, sont en train de se partager les dépouilles de l'empereur, mais qui vont, à un moment, ils ont failli en venir aux mains, notamment entre les Russes et les Autrichiens. Il a failli y avoir une guerre. Et à ce moment-là, s'il y avait une guerre, c'est sûr que le sort de Napoléon eût été très différent.
Je reviens sur le terme « destiné ». Page 130 dans votre roman, dont je rappelle le titre, « La maîtresse italienne », vous écrivez Jean-Marie Roire. « Au-delà de tous les calculs de probabilité, de son intelligence qui le rassure sur les chances de sa réussite, il confie sa décision à quelque chose de plus haut, de plus mystérieux, de plus irrésistible, de plus implacable, sa destinée. » Et d'ailleurs, sa mère, Letizia, est intimement convaincue qu'il doit suivre son destin.
Oui.
Ou sa bonne étoile, parce qu'il a quand même eu une bonne étoile.
Cette bonne étoile, on peut dire qu'elle l'a accompagnée toute sa vie et jusqu'à la fin. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu l'échec de Waterloo. La bonne étoile a continué à l'éclairer. La preuve, c'est qu'il est encore présent aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, là aussi, de très intéressant dans la biographie de Napoléon. C'est de voir à quel point il a été l'objet d'un certain nombre de miracles. L'évasion de l'île d'Elbe, c'est un miracle. La reconquête des 100 jours de la France par un seul homme, c'est un miracle. Vraiment, on peut dire qu'il est protégé. Il est protégé et il le sait. Vous savez, il avait cette fameuse formule « La balle qui me tuera portera mon nom ».
J'aimerais qu'on revienne sur l'année 1814. Donc il y a effectivement un Napoléon qui signe son abdication à Fontainebleau. Là, on est en avril 1814. Un mois plus tard, Louis XVIIT, un roi qui a connu l'exil pendant presque un quart de siècle, un roi un peu humilié quand même, frère de Louis XVI, le guillotiné, donc qui revient en France et qui monte sur le trône. Comment se fait-il que l'Europe ait garder Napoléon vivant? Pourquoi ne l'a-t-on pas jugé, fusillé
Mais il y a eu des tentatives.
Alors, il y a beaucoup de tentatives, effectivement, d'assassinat. Mais
il y a plus d'une cinquantaine de tentatives d'assassinat pendant son règne qui ont été opérées par les Anglais. Les Anglais voulaient à tout prix le faire assassiner. Ils ont la rue Saint-Nicaise, c'est les Anglais
qui étaient derrière. La machine infernale de la rue Saint-Nicaise.
Puis ils ont assassiné énormément de gens autour de Napoléon. Ils ont fait assassiner Paul Ier, qui était le père d'Alexandre Ier, qui lui voulait rejoindre, faire une alliance avec Napoléon. Ils ont fait assassiner pendant la campagne d'Égypte Tibou Saïd, qui était un Raja que Napoléon voulait rejoindre en Inde. Donc les Anglais, c'est vraiment leur péché mignon, c'est l'assassinat. Donc ils vont... Et là encore, il y a d'autres opérations. Il y a la fameuse affaire Maubreuil avec Talleyrand. Talleyrand a plus ou moins essayé de faire assassiner Napoléon. Et puis ça va continuer. Pendant tout son séjour à l'île d'Elbe, il va déjouer un grand nombre de tentatives d'assassinat.
Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Napoléon devient ce grand proscrit, qu'il se trouve sur l'île d'Elbe, qui est une petite île, un carré de légumes, comme l'appelait Chateaubriand. Je crois que c'est une île qui fait 30 km de long, 18 km de large. Napoléon conserve en fait des prérogatives et c'est ça en fait.
C'est un monarque.
C'est un monarque.
C'est un monarque. Le traité de Fontainebleau lui a donné un certain nombre de garanties. C'est lui qui peut tout décider dans cette île. Il a vraiment c'est le monarque d'une petite île, mais il devrait avoir des subsides qui devraient venir de Louis XVIII, mais Louis XVIII, qui à la fois par pingrerie, mais aussi par vengeance mesquine, refuse de verser les 2 millions par an qu'il doit à Napoléon.
Alors Napoléon se retrouve sur cette île d'Elbe et finalement... Sur l'île d'Elbe se joue encore un peu l'Empire. C'est-à-dire qu'on fait semblant, Napoléon fait encore semblant d'être à la tête de quoi ? Il y a 2000 hommes à peu près encore avec lui à l'île d'Elbe. Et d'ailleurs, c'est pour reprendre, il est question de permanent théâtre. Hein, vous écrivez, c'est la réédition de l'Empire en modèle réduit, une experte miniaturisation d'un système de gouvernement passé de 100 millions de sujets. C'est effectivement la grande Europe dominée par Napoléon, à 10 000 Iliens, les Elbois sur cette île. Petite île, en fait, il faut le dire, pas très loin de la Corse, finalement.
Ah oui, on voit la Corse. Ah, oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai une maison au Cap Corse et je distingue, dans le fond, l'île d'Elbe. Mais vous savez, c'est aussi sa sauvegarde, parce que les 1500 hommes qu'ils ont près de lui, eh bien, c'est eux qui le garantissent contre toute invasion venant des gens qui veulent avoir sa peau. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le fait que Louis XVIII ne verse pas la somme qui servait de solde à ses soldats, vous voyez, eh bien, ça va accélérer le désir de Napoléon de s'enfuir. Je ne crois pas que, de toute façon, il serait resté dans cette île. Je pense qu'il cherchait le meilleur moyen de fausser compagnie aux gens qu'il surveillait, et de pouvoir rejoindre le fil de sa destinée. Et sa destinée, c'était la grandeur. Et la grandeur, vraiment, l'île d'Elbe était trop petite pour qu'il puisse exercer toute l'étendue de ce qu'il appelait la grandeur.
Si vous le voulez bien, Jean-Marie Rouard, nous allons marquer un premier intermède musical. On se retrouve juste après pour continuer à parler de l'île d'Elbe et de ce si grand homme dans une si petite île. C'est ce que pense d'ailleurs Campbell, l'officier britannique chargé à la fois de le protéger et de le surveiller. C'est donc un académicien qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio jusqu'à midi. Le titre de son dernier roman, La maîtresse italienne, c'est chez Gallimard. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Ça n'aime pas la solitude, elle a besoin qu'on la regarde. Cerne la défigure, y a le blizzard qui la regagne. Elle ne veut pas chialer, ça ferait couler son mascara. Ce soir elle fait soirée pour oublier que rien ne va. Dans sa robe moulante, elle attire l'attention. Paraît si souriante, cède à toute tentation. Elle se fait désirer, elle enflamme la piste de danse. Au fond de son gobelet, elle a laissé son innocent. Lisa, 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 Lisa. Bizarre, c'est bizarre, bizarre. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas comme Mickey. car elle s'écarte. Folle trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écarte. Folle trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. C'est bizarre, bizarre. Lisa a peur du noir, elle est du genre stressée. Elle prend des calmants pour effacer son anxiété. Elle bédave en cachette, elle fait la princesse. Et quand viennent les problèmes, elle s'allume une cigarette. Regarde par la fenêtre et voit son corps qui s'y jette. Tout le monde observe, mais personne ne la voit. Elle enchaîne les cocktails, espérant retrouver la foi. Lisa, 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 bizarre, bizarre, mais c'est bizarre, bizarre. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écarte. Folle trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écarte. Folle trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa, c'est bizarre, bizarre, mais bizarre, bizarre. Lisa aime qu'on la maltraite, elle ne veut pas d'un mec bien. Elle ne pense pas mériter quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sain. Elle ne se reconnaît plus, ce qu'elle voit dans le miroir la répugne. Elle se dégoûte quand elle se dénude. Malheureusement, ce qu'elle voit ne suffit plus. Elle prend des claques, on ne la respecte pas. Mais elle s'en tape, elle non plus ne la fait pas. Triste et ivre, Lisa cherche le commun. Bêtise, elle tape une ligne, s'abîme pour un connard. Envoie des news sur Instagram. Elle fait la grande dame. Au fond, elle se sent sale. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écarte. Folle trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas. Elle s'appelle Lisa, c'est bizarre. Elle se brûle les ailes et elle kiffe ça. Lisa ne gère pas. Comme Icar, elle s'écarte. Folle trop près du soleil, elle se fait du mal. Lisa ne s'aime pas.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La maîtresse italienne Jean-Marie Roire de l'Académie française, il faut que je fasse très attention à mon élocution et à mon français. Devant un académicien, il faut être toujours très vigilant.
Non.
Ah bon ?
Je veux dire, je vous mets tout à fait à l'aise. Un académicien, vous savez, c'est peut-être plus important d'être un écrivain qu'être un académicien. Et un écrivain, c'est quelqu'un qui aime trop la langue française pour pouvoir donner des leçons. Ce qui est important, c'est l'intention. Que les gens se rendent compte de la richesse de la langue française, qu'ils se rendent compte que c'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre en péril. Et d'ailleurs, je lutte contre le franglais, qui est une menace, un péril mortel, comme l'écriture inclusive. Mais, vous savez, il ne faut pas être pédant. Il ne faut pas être pédant. Moi, je trouve, très souvent, vous savez, quelquefois, il y a des dames qui m'écrivent. Enfin, autrefois, parce qu'à l'Académie, on n'a plus d'amoureuses, c'est terminé. Mais autrefois, qui m'écrivait, et avec des fautes d'orthographe, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui compte, c'est le cœur, je vais vous dire, et c'est ce que disait Proust, d'ailleurs. Au-dessus de tout, de l'intelligence, il y a quelque chose de supérieur, c'est le cœur. Et donc, moi, j'aime ceux qui aiment la langue française, j'aime ceux qui aiment les grands écrivains, mais je me fiche complètement qu'ils fassent des fautes d'orthographe, qu'ils fassent des fautes de français. Vraiment, je ne suis pas un juge. Je suis un amoureux, je crois que je le montre dans ce livre, mais un amoureux de la vie. Voilà. Et la vie, c'est de commettre des erreurs. Et les erreurs de français, les fautes de français, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus grave.
Bon, c'est noté. On peut néanmoins faire des efforts pour respecter, comme vous dites, notre belle langue française. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie française depuis 1997 et que vous avez été élu au fauteuil 26. Hein, vous avez succédé à Georges Duby. Voilà, pour information. Alors, on revient à Napoléon et à l'île d'Elbe, Jean-Marie Roire. Cette île d'Elbe où, effectivement, se retrouve pendant presque un an, Napoléon. Alors, on a parlé de l'île d'Elbe. Alors, c'est assez paradisiaque, en tout cas telle qu'elle est présentée dans le roman. Et je pense que dans sa réalité, c'est une magnifique île. Napoléon est loin d'être dans un cachot sur de la paille avec des rats qui couinent à ses côtés. Certains souverains européens doivent se dire, finalement, Napoléon a la belle vie sur l'île d'Elbe. Or, finalement, pas tant que cela, puisque, et ça c'est authentique, ces propos de Napoléon que vous rapportez dans le roman, « Je suis mort, l'empereur est mort, je ne m'intéresse plus qu'à mes vaches et à mes mulets. »
Mais ça, il le dit pour essayer de calmer les inquiétudes des membres du Congrès de Vienne qui sont en train de lui préparer un mauvais parti. Parce que vous savez, l'expression, on dit c'est le Vésuve à côté de Naples. Donc les gens ont très peur, se disent s'il est d'une dimension trop grande pour pouvoir se satisfaire de l'île d'Elbe. Donc il a toute une stratégie pour essayer de calmer les esprits, pour essayer de faire croire qu'il est très bien dans cette île. Mais personne ne le croit vraiment. On sait très bien qu'un homme de cette dimension ne restera pas longtemps et que forcément, c'est pour ça qu'on cherche d'autres solutions. Et les solutions anglaises, les Britanniques veulent l'envoyer si possible à Sainte-Lucie où le climat est très mauvais pour qu'il attrape une seule maladie et qu'il disparaisse le plancher.
Alors, revenons sur ce congrès de Vienne, parce que c'est aussi votre roman, La maîtresse italienne, Jean-Marie Roire, c'est une très belle page d'histoire, très belle page d'un grand épisode napoléonien. Alors, le congrès de Vienne, c'est le congrès qui réunit en fait les anciens coalisés, les ennemis de la France napoléonienne. Alors, un Napoléon battu qui a signé son abdication à Fontainebleau. Donc il y a les Autrichiens, il y a la Prusse, il y a, n'oublions pas la Russie, du tsar Alexandre, et il me manque un pays, et les Anglais bien évidemment, que je n'ai pas cité.
Mais il vous en manque un autre, qui est la France.
Alors il y a la France avec Louis XVIII et Talleyrand.
Talleyrand, d'ailleurs, c'est vraiment la première fois que la France va essayer de s'imposer, puisque c'est le pays qui a été battu, et que Talleyrand va essayer de prendre un grand ascendant. Il le peut par son intelligence, qui est prodigieuse, et par son expérience. C'est celui qui a le plus d'expérience diplomatique de tous les congressistes. Mais ce qui est étonnant dans ce congrès de Vienne, qu'on va appeler la Sainte Alliance, c'est à la fois son refus de voir la réalité napoléonienne, de voir que la Révolution et l'épopée napoléonienne ont tout changé. Mais ça, ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas le voir parce qu'ils sont dans un principe démonétisé qui est la légitimité. Ils ne veulent pas voir que le mérite, maintenant, va régner sur l'Europe et ils essaient de l'étouffer et en se dissimulant sous ce principe de légitimité. Voilà. Et c'est quelque chose d'un peu étouffant. Ils ne s'en rendent pas compte. Et ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir que ces hommes qui sont toute la journée en train avec leurs experts d'étudier la carte de l'Europe pour se partager les dépouilles de l'Empire, eh bien, en fin de journée, alors là, ils vont souper, danser, il y a des danses, ils vont écouter Beethoven qui va jouer sa première symphonie. Et après, c'est fastueux, hein, parce que les Autrichiens ont très bien fait les choses dans la très belle ville de Vienne. Ils goûtent énormément les plaisirs. Et puis après les dîners, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, c'est vraiment, on rentre dans le problème de la vie privée, parce qu'ils vont tous retrouver leurs maîtresses. Quelquefois, ce sont les mêmes qui se partagent les maîtresses. Enfin, c'est quelque chose d'impressionnant. Et il y a un préfet de police, enfin le chef de la police, le ministre de la police, qui s'appelle Aguerre, qui va lui surveiller tout ça. Et qui, dans les notes qu'on a pu retrouver de lui, on voit toutes les coucheries qui se passent pendant le congrès de Vienne. C'est absolument invraisemblable. Et la principale coucherie la plus importante, historiquement, c'est évidemment la liaison torride entre Talleyrand lui-même, qui a 61 ans, et sa nièce ravissante, qui est la duchesse de Lignon, qui en a 21. Et non seulement elle a cette liaison avec son oncle, la duchesse de Lignon, mais en plus, elle peut pas. C'est une femme qui aime les hommes et elle change d'amant comme de chemise.
Et notamment le comte Clam Martinitz.
Oui. Oui. Et ce conte, qui est très curieux, c'est comme quoi en histoire, tout se retrouve. Ce conte, Clam Martinitz, était celui qui avait accompagné Napoléon.
Donc de Fontainebleau, jusqu'à Fréjus.
Jusqu'à Fréjus. Et comme vous savez que la population voulait faire un mauvais parti à Napoléon, Napoléon est obligé de prendre le costume, l'uniforme d'un officier qui était Clam Martinitz, qui lui avait prêté son costume. Vous voyez, tout se retrouve dans cette histoire absolument passionnante, qui est tellement romanesque. On peut dire que le roman est partout dans cette épopée napoléonienne.
Alors, vous avez parlé de Talleyrand, ce diable boiteux qui est un homme qui, effectivement, est un apostat. Vous avez un superbe chapitre où vous brossez un portrait moral et physique de cet homme, portrait hautement péjoratif. Et puis, à chaque fois, vous nous brossez des portraits et on découvre...
Humain. Non, je n'aime pas être péjoratif. Vous savez, je trouve que l'histoire existe.
Alors, le portrait est dur parce que...
Je l'accepte, mais j'essaie de montrer chez chaque personnage, même le plus maltraité, je crois, c'est Louis XVIII, mais c'est aussi parce qu'il est physiquement disgracieux, voilà, il a un peu de temps, et puis il est un peu, à la fois très intelligent, mais politiquement bête.
En tout cas, tout le monde a la frousse de Napoléon vivant. Talleyrand déteste Talleyrand... Talleyrand déteste aussi Murat, Louis XVIII déteste Napoléon. Napoléon est l'objet des haines des quatre coins de l'Europe.
Surtout, c'est un gêneur, parce que, vous savez, Talleyrand aspire à la paix, à la fortune et au plaisir. Ce qui domine Talleyrand, c'est sa vie sexuelle. Il est dominé par la vie sexuelle, et la vie sexuelle... avec ce qui l'accompagne, c'est l'argent. Parce que quand on a un pied beau et quand on commence à avoir quelques années de vol, il lui faut beaucoup d'argent. Donc, c'est toutes ces préfabrications, etc. Mais le but, je crois, c'est d'assouvir une vie sexuelle dévorante. Il adore les jolies femmes. Et là, il est tombé fou amoureux de sa nièce, qui le comble, parce que non seulement c'est une très jolie femme, mais c'est une tête politique de première grandeur. Et à 21 ans, elle lui donne des conseils. C'est elle qui rédige un certain nombre de notes. Donc, c'est une femme qui, pour lui, est la femme complète. C'est la femme complète. Elle est sublimement belle. Elle est d'une famille aristocratique, là aussi, exceptionnelle. Et donc, ça va être la dernière passion de sa vie.
En tout cas, Talleyrand a peut-être moins de problèmes d'impuissance avec les femmes que Louis XVIII.
Ah oui, ça c'est certain.
Alors le pauvre Louis XVIII, vous écrivez à propos avec Madame Duquesla. Alors qui est Madame Duquesla? C'est une maîtresse de Louis XVIII.
Oui, c'est une maîtresse. Une maîtresse, c'est beaucoup dire, dans la mesure où les moyens physiques du roi sont très très limités. Alors, il se contente de priser, vous savez, de mettre du tabac entre ses... Elle a des seins très importants, une poitrine opulente, et il met du tabac entre ses seins, et il respire à la fois le parfum de ses tétons, voilà, il est là. C'est un impuissant, voilà. C'est un homme impuissant qui n'a plus les possibilités de réaliser sexuellement, totalement, ce qu'il souhaite.
Passage dans votre roman. Les efforts laborieux de Madame Duquesla ne parviennent pas à ragaillardir le membre royal qui demeure d'une désarmante flasquesse. J'ai, pour Louis XVIII, un peu de la peine pour ce roi qui, effectivement, sent un peu trop l'ancien régime et a mal perçu l'héritage de la Révolution française dans ce beau grand pays, tout de même, puisque la France retrouve pratiquement ses frontières de 1792. Donc la France est quand même humiliée, elle est occupée par un grand nombre d'armées étrangères quand Louis XVIII revient sur un trône branlant d'ailleurs. Et puis il est trop attaché à l'ancien régime, ne serait-ce que donner une charte à notre pays, pourquoi ne pas avoir... utiliser ou privilégier le terme de constitution.
C'est une erreur. Mais vous savez, il fait partie de ces immigrés dont on disait ils n'ont rien oublié et rien appris. Il illustre ça. Et en même temps, il est plus intelligent qu'eux. Il est entouré par ces immigrés qui veulent à tout prix le ramener à la monarchie de droit divin. Mais il est plus intelligent, mais il y a chez lui, les réflexes sont émoussés. Et il ne va, je crois, par jalousie, parce que au fond, vous savez qu'il avait proposé à Napoléon de lui céder la place. Et que Napoléon l'avait rembarré. Et donc, je pense qu'il y a une forme de jalousie et de mépris pour un homme qui doit tout à son mérite. Il considère que la légitimité, le droit de vivre, on lui a volé quelque chose qui lui appartenait et auquel on ne devait pas toucher. Donc, c'est une forme de sottise. Voilà. C'est une forme de sottise, en tout cas politique. Et il faudra attendre Louis-Philippe pour qu'il y ait un roi qui comprenne qu'on ne peut pas effacer d'un seul coup toute la légende napoléonienne et qu'il faut au contraire essayer de la récupérer.
Il faut dire aussi qu'entre Louis XVIII et Napoléon, ce sont un peu deux époques différentes. Je dirais que Louis XVIII, c'est un petit peu l'Ancien Régime, donc c'est effectivement une société qui reste crispée sur les privilèges, sur une hérédité de la race ou de la caste, si je puis me permettre. Tandis que Napoléon est l'homme, vous en avez parlé d'ailleurs Jean-Marie Rouard, c'est l'homme du mérite, l'homme des ambitions, c'est l'homme du 19e siècle, ce sont les ambitieux qu'on va découvrir dans les romans de Balzac par exemple. Ce sont deux personnalités, deux psychologies différentes.
Tout à fait.
Et deux France sociologiquement différentes.
Les romans de Balzac illustrent complètement l'épopée napoléonienne. Il constitue une partie de la légende. Mais la différence entre Napoléon et Louis XVIII, c'est que Napoléon admet que l'aristocratie a eu un certain nombre de mérites. Il dit, seuls ces gens, en parlant des aristocrates, seuls ces gens-là savent servir. Donc, il a du respect. D'ailleurs, il va s'entourer d'énormément d'aristocrates qui vont le servir à la fois dans la diplomatie, à commencer par Talleyrand, qui est vraiment un aristocrate. Donc, c'est la différence. Napoléon essaie de faire la synthèse entre l'Ancien Régime et les idées nouvelles apportées par la Révolution.
Est-ce qu'on peut dire que Napoléon est le roi de la Révolution ?
Non, je ne dirais pas ça parce que il a essayé, comme il l'a dit lui-même, j'ai dessouillé la Révolution. Il a retiré à la Révolution tout ce qu'il pouvait y avoir d'abject, d'horrible. Et vous savez, Clémenceau disait, la Révolution est un bloc. C'est très gentil pour la Révolution, mais il y a eu tellement d'horreurs sous la Révolution. Vraiment, on peut, et je ne parle même pas du génocide vendéen, qui a été une monstruosité. Il y a eu tellement de monstruosités. Non, donc c'est pas le roi de la Révolution. C'est un homme qui doit sa carrière, en effet, à la Révolution. Il n'aurait pas eu la Révolution. Certainement, il aurait eu du mal à s'imposer. Mais il a tiré de quelque chose qu'on ne pouvait pas effacer. Il en a tiré le meilleur. Et le meilleur, c'était, en effet, le mérite et la fin de privilèges et d'abus qui était intolérable.
Alors, on a parlé un peu de la sexualité de Louis XVIII. On va marquer un nouvel intermède musical et j'aimerais que nous parlions des femmes. Alors, on va parler de cette maîtresse italienne, mais je voudrais que nous parlions tout de même des femmes qui ont été plus ou moins présentes auprès de Napoléon lorsque notre grand proscrit se retrouve à l'île d'Elbe. C'est avec grand plaisir que je vous rappelle que c'est Jean-Marie Rouard qui nous accompagne dans Wagon Livre sur Radio jusqu'à midi. Nous revenons juste après. Je rappelle que son dernier roman est disponible en librairie. Il a pour titre « La maîtresse italienne » et c'est chez Gallimard.
On the last December day, you told me I don't need to stay. You said, go and pack your things. Right away, but I was waiting for you to regret what you said, and I was waiting for you to call me back to bed. I can't make you love me like you did before, can't make you hate me anymore. I So I took my bags and left with a bottle of champagne. It's fucking New Year's Eve and it's getting rather late. How do I get through this? I want my New Year's kiss. How do I get through this? I want my New Year's kiss. I can't make you love me like you did before. Can't make you hate me anymore. I can't make you love me like you did before. Can't make you hate me anymore.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jean-Marie Roire sur Radio ce matin, quel bonheur et quel plaisir, Jean-Marie Roire. La maîtresse italienne, c'est le titre de votre dernier roman. Juste avant la pause musicale, j'aimerais, avec vous, fin connaisseur de l'épopée napoléonienne, c'est un homme qui compte beaucoup dans votre parcours. Déjà aussi parce que, comme lui, vous avez connu des échecs. Hein. Napoléon n'a pas toujours été un grand vainqueur. Il a eu des moments d'abattement, vous aussi. Vous avez eu des moments de doute, de découragement. Et finalement, comme lui, vous êtes un combattant.
C'est-à-dire qu'à 18 ans, quand j'avais beaucoup de mal à avoir mon bac, je ne devrais pas le dire devant vous, parce que je le dis pas à l'académie d'ailleurs. Quand j'avais 18 ans, je connaissais tous les malheurs. J'étais complètement fauché, je vivais dans une chambre de bonne, et en plus, ma petite amie me trompait. Et en plus, elle me trompait avec un crétin, ce qui est épouvantable, parce que ça, c'est impardonnable. Elle m'aurait trompé avec quelqu'un comme moi, j'aurais pardonné. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le mémorial de Sainte-Hélène, et que j'ai découvert tous les malheurs de Napoléon, tout ce qu'il avait connu, comme il avait été trompé. Et donc je me suis dit, mais c'est merveilleux cet homme, tellement exceptionnel, cette légende, une des grandes légendes de la France. Et nous n'en avons pas d'équivalent, je crois. Et eh bien, comment cet homme a surmonté ses échecs? Et j'ai trouvé que c'est ce qu'avait d'ailleurs apprécié Balzac, c'est ce qu'avait apprécié Stendhal, c'est que cet homme est une leçon d'énergie. C'est pour ça que je conseillerais, moi, à tous les jeunes gens, à toutes les jeunes filles...
De lire
le mémorial de Sainte-Hélène, Lascaz, parce qu'on voit comment, dans la pire difficulté, eh bien, il relève toujours la tête, il se bat. Et finalement, il donne à la vie un sens. Ouais.
Néanmoins, il a été parfois tenté par le suicide.
Bien sûr.
Pas souvent, peut-être, mais je crois qu'il y a un épisode où...
Oui, à la fois comme jeune lieutenant, et puis au moment de Fontainebleau, au moment de sa chute.
Alors, justement, parlons des femmes. Bien sûr, il y a l'impératrice. Parce qu'à l'île d'Elbe, il y arrive avec ses fidèles militaires. Hein. Alors j'ai un peu oublié les noms. Il y a Pérus, bon, qui est un peu son grand argentier. Il y a Cambronne. Il y a également Drouot, le général Bertrand, bien sûr, bien connu. Et il n'y a aucune femme qui l'a... Si, il y a Madame Mère qui va le rejoindre un peu plus tard. Mais bon... l'impératrice Marie-Louise, est-ce qu'on peut dire que Marie-Louise est séquestrée en Autriche? Parce qu'elle appartient à la cour des Habsbourg. C'est une Autrichienne.
Séquestrée, je ne dirais
pas. C'est
un peu
fort.
Oui, c'est un peu fort. Alors, c'est très curieux. C'est une femme qui n'a pas une très grande personnalité. C'est une femme qui obéit à la volonté la plus forte. Et elle est, la volonté la plus forte, c'est celle de son père. Son père fait tout pour la détacher, mais elle-même ne s'acharne pas pour aller retrouver son mari à l'île d'Elbe. Et puis, on va la mettre dans les bras du général de Nyberg, vous savez, qui était un homme qui avait perdu un œil, et qui va la séduire, et elle va avoir deux enfants avec lui. Et Chateaubriand dira, il a mis ses œufs dans le nid de l'aigle. Et elle, bizarrement, elle va complètement oublier Napoléon. Elle ne va pas du tout élever l'aiglon dans le souvenir de son père, ni la cour. Et là, Napoléon a commis une erreur totale.
Il est mauvais stratège.
Oui, voilà. Parce que pourquoi, et ça c'est très intéressant aussi, c'est qu'il voit les femmes à travers sa mère. Et sa mère, c'est une mama corse. Or, on ne peut pas imaginer une mama corse abandonnant son mari et ses enfants. Donc, et là, il le dira d'ailleurs, il ne s'est pas rendu compte que les Habsbourg étaient des gens un peu différents, que ce sont des monstres froids, ce ne sont pas des bourgeois. Napoléon appartient sur le plan sentimental à la bourgeoisie, le mariage, les enfants, c'est important. Mais pour les Habsbourg, c'est vraiment des gens qui ne voient que la politique.
C'est ça, oui. Là, il n'y a pas de sentiment, c'est... On fait des affaires pour la diplomatie et pour la politique.
J'ai vécu cette affaire en bourgeois.
Alors, il y a une autre femme, c'est la Polonaise, c'est Marie Walewska. Alors, dans le roman, et l'histoire le confirme, elle ira passer deux jours auprès de Napoléon à l'île d'Elbe. Alors là, beau repas, argenterie, porcelaine luxueuse. Mais alors, elle est touchante parce que c'est une sentimentale. Ce qui n'est pas le cas de l'impératrice, finalement.
Ah non, l'impératrice, c'est une Habsbourg, c'est à la fois une femme un peu légère et puis une femme qui n'a pas une très grande consistance. Tandis que Marie Walewska, c'est une amoureuse. Mais là, on va avoir un épisode absolument invraisemblable parce qu'elle vient en cachette. On se croirait vraiment dans un vrai roman.
Ah oui. Elle vient sur les berges.
Elle vient avec le fils qu'elle a eu de Napoléon.
Alexandre, le petit Alexandre.
Et puis, subitement, Napoléon va redevenir un peu l'adolescent qu'il était. Il va se mettre à avoir peur qu'on apprenne à l'extérieur et que Marie-Louise en profite pour trouver une raison de ne pas venir. Vous voyez, donc, il va à la fois dire à Marie Walewska de partir, et puis il va lui dire au dernier moment, ce qui va sûrement être un choc pour elle, et au moment où elle part, il s'en veut, d'autant plus que le vent se lève, il y a une tempête, il se sent coupable, alors il part au grand galop pour aller essayer de la retrouver, et elle-même monte sur le bateau, voilà, embarque, et Napoléon est un peu désemparé comme un jeune homme. Alors là, il y a un côté... Vraiment un retour de l'adolescence chez Napoléon.
Alors il y en a une autre dont nous n'avons pas encore parlé, c'est Joséphine. Et dans le roman, le narrateur dit « C'est en elle que réside aujourd'hui la clé de son destin. C'est elle qui tenait le destin de Napoléon, même sur l'île d'Elbe, et qui finalement va avoir beaucoup d'autres amants. En plus... elle avait déjà eu pour amant celui qui avait inventé la Marseillaise, ce qui explique que la Marseillaise ne pouvait être ni jouée ni chantée devant Napoléon. Alors, cette Joséphine a laissé tomber Napoléon ?
Non, je crois pas. Non, c'est plutôt lui qui... Vous savez, à un certain moment, elle a joué un très très grand rôle. Au début de Napoléon, elle a joué un rôle essentiel. Et puis, petit à petit... quand il s'agit d'avoir une dynastie, il l'a sacrifiée parce qu'il voulait, il pensait avoir la capacité de pouvoir créer une autre race royale. Voilà. On a vu que ça n'a pas été possible. Mais l'aristocratie qu'il a créée, vous pouvez le remarquer, n'a pas été éliminée par l'autre aristocratie. Et aujourd'hui encore, vous avez énormément de mariages entre des Bourbons et des Murats. Enfin, c'est extraordinaire de voir que la noblesse napoléonienne s'est maintenue à côté de l'autre noblesse, se sont rassemblés. Donc finalement, le désir de Napoléon de créer une monarchie s'est réalisé d'une certaine façon après lui. Après lui, et encore maintenant, on voit qu'il ne fait pas beaucoup de différence entre l'aristocratie créée par Napoléon et l'ancienne aristocratie.
Alors, il y a une autre femme, alors évidemment, c'est la sœur, c'est Pauline, qui a son rôle, c'est la deuxième sœur de Napoléon, et qui vient mettre un petit peu de gaieté, de joie de vivre, qui organise des bals pour prendre soin de son frère. Elle lui donne même ses diamants pour l'aider financièrement, puisque la France ne lui verse pas les 2 millions annuels.
Et puis, disons le mot, elle lui sert d'entremetteuse. Et ce n'est pas la première fois, parce que déjà, quand Napoléon jetait son dévolu, même marié, même avec l'impératrice, sur une jolie femme de son entourage, mais c'est elle qui favorisait la rencontre et même qui persuadait la jeune femme d'aller dans le lit de son frère. Et là, elle va faire le même travail, elle va lui présenter pour le sortir un peu de sa torpeur et de sa mélancolie, parce que Napoléon est déçu parce que Marie-Louise ne vient pas. Donc, elle va s'occuper de ses nuits. Elle va meubler ses nuits.
En tout cas, en France, on est prêt à toutes les calomnies, puisqu'il y a une histoire qui a couru, une histoire d'amour incestueux entre Napoléon et sa sœur Pauline. Alors là,
c'était...
C'est Talleyrand qui a lancé cette histoire,
non,
ou les Anglais
c'est l'entourage de Louis XVIII. Ah. Pour faire plaisir à Louis XVIII, on lui racontait des turpitudes imaginaires de Napoléon, disant qu'il couchait avec sa sœur, et même qu'ils ont rattrapé une maladie vénérienne. Vous voyez, on allait très très loin. On a même donné le nom du médicament qui était employé. Enfin, c'est vraiment des racontars, ce qui montre à quel point Napoléon était détesté, qu'il fallait le salir à tout prix par l'aristocratie qui avait repris le pouvoir.
Alors je lis cette fois-ci le portrait de cette maîtresse italienne. Elle a moins de 30 ans, arborant une abondante chevelure d'un blond qui tire vers le roux, semblant offrir à chacun en particulier l'attrait de son sourire mutin, de ses lèvres pulpeuses et de son orgueilleuse poitrine qu'elle exhibe volontiers. Alors, très jolie comtesse Miniacci, qui est à Florence, qui est la coqueluche de Florence, qui va faire tourner la tête du bel officier écossais qui se trouve sur l'île d'Elbe, chargé de surveiller Napoléon. Mais lui, de temps en temps, il prend une frégate et il va sur les côtes italiennes. Et là aussi, dans les palais italiens, alors on rêve à ces soirées entre italiennes, duchesses, comtesses, où l'on parle de Napoléon, du congrès de Vienne. Il y a un côté magique. Je suis sûr que les soirées actuelles mondaines sont beaucoup plus tristes.
Ah, c'est sûr que à tous les points de vue, on a régressé. Mais cette femme, en effet, j'ai essayé de montrer que la clé de sa séduction, c'était pas seulement parce qu'elle avait ouvert ses bras à ce colonel très beau, mais qu'en même temps, elle le faisait marcher. C'est une femme fatale. Elle le trompait. Elle lui donnait des rendez-vous auxquels elle ne venait pas. Vous voyez, elle utilise tous les artifices, tous les moyens d'une femme fatale pour l'accrocher et lui, sans augmenter sa passion. Donc il y a une passion folle qui se développe chez lui, qui va l'amener à revenir de plus en plus souvent. Et ce qui va permettre à...
Ah, il ne faut pas trop en dire, Jean-Marie Roy. Ah, il ne faut pas trop en dire. Parce que finalement, elle est peu présente dans le roman, cette maîtresse italienne.
Par suggestion, elle est complètement... C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce que j'ai tenté de faire aussi. J'ai essayé d'éviter... Vous savez, dans le film de Ridley Scott, on voit des scènes d'amour qui sont parfaitement ridicules. Et moi, j'ai une autre conception... En matière de description amoureuse dans mes romans, c'est la suggestion. Je crois que les choses sont beaucoup plus fortes quand on les suggère. Donc je ne suis pas du tout sur le modèle de Bruno Le Maire ou de Houellebecq, qui raconte des choses tout à fait torrides, très, très décrites. Moi, je suggère. Et vous savez, il y a un livre de Stendhal que j'aime beaucoup, qui était le rouge et le noir. Et quand Julien Sorel franchit la porte de sa maîtresse, il passe, d'ailleurs, c'est pas la porte, c'est la fenêtre, et là, il la prend dans ses bras, et il y a trois lignes de petits points. Eh bien, quand j'avais 18 ans, chaque petit point, pour moi, avait un sens. Eh bien, moi, je vais un peu plus loin avec les petits points. Néanmoins, je crois que c'est très important qu'on soit dans la suggestion.
En tout cas, cette maîtresse italienne, c'est Campbell qui dit « Je n'arrive pas à savoir si elle a été élevée dans le plus strict des couvents ou dans la plus huppée des maisons de plaisir. » Quelle étrange femme qui, en tout cas, fait tourner les têtes et va aussi, à mon avis, faire chuter le destin du beau colonel anglais et faire rebondir le destin d'un autre homme. Mais j'en ai presque déjà trop dit, c'est la maîtresse italienne de Jean-Marie Roire qui nous a accompagnés aujourd'hui dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Monsieur l'académicien Jean-Marie Roire, merci, ce fut un grand plaisir.
C'est moi qui vous remercie.
Et je souhaite, pour utiliser et parler français, un bon congé de fin de semaine à nos auditrices et auditeurs, à qui je donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h, sur quelle antenne, Jean-Marie Roire?
Sur Radion.
Sur Radion, merci. Bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Jean-Marie Roire.
Au revoir, merci.
Et à samedi prochain.